Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous accompagne où que vous soyez pour que 2020 soit une excellente année. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La parole, l'alimentation, la séduction, nos dents nous servent à former les mots. À manger et s'expose le temps d'un sourire, elles remplissent des fonctions aussi variées que diverses, sollicitées à chaque instant ou presque. Et lorsque l'on parle de santé des dents et des gencives, au-delà de la prise en charge des diverses maladies bucco-dentaires, on insiste toujours sur la prévention. Ces gestes, ces soins indispensables pour préserver ces précieux alliés dont l'état peut avoir des répercussions sur l'ensemble de l'organisme. Les bons gestes à intégrer, brossage quotidien, suivi régulier, en oubliant aussi certaines mauvaises habitudes comme le tabac, en surveillant bien sûr la nature de nos aliments, éviter les traumatismes, prendre en charge les affections. Mais comme souvent, encore faut-il en avoir les moyens, financer les traitements, le cas échéant les prothèses dentaires. Encore faut-il tout simplement avoir la possibilité de consulter un praticien compétent. Car entre les conseils de santé publique et les réalités économiques et géographiques, eh bien, il y a souvent un fossé qui reste dans de nombreuses régions du monde, loin, très loin d'être comblé. Et pourtant, ces affections bucco-dentaires sont les maladies non transmissibles les plus courantes, constat émis par l'Organisation mondiale de la santé. Pour parler prise en charge, prévention, avec nous, professeur Vianney Descroix, bonjour.
Bonjour Caroline Paris.
Vous êtes chef du service d'odontologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous êtes également professeur des universités en sciences biologiques à la fac de chirurgie dentaire de Paris. Tout à l'heure, nous allons retrouver en ligne du Bénin le docteur Émile China, chef du cabinet dentaire du PK3 à Cotonou. Docteur China, qui est président d'honneur de l'Association des chirurgiens dentistes du Bénin. Et en fin d'émission, nous retrouverons la chronique sport du docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo.
Priorité santé sur RFI.
On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec vous, professeur Descroix. Évidence, incontournable, bien se brosser les dents, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, bien se brosser les dents, c'est une règle d'hygiène qu'il faut adopter de façon très régulière, pratiquement de façon automatique. Ça veut dire avoir un peu de matériel quand même, une brosse à dents qu'on conseille toujours souple. Même si les gens considèrent que quand elle est dure, ça brosse mieux. En fait, ça abîme les dents, ça abîme les gencives, ça récure. Il faut une brosse à dents souple. Il faut une brosse à dents par personne. C'est quand même mieux de ne pas partager sa brosse à dents avec toute la famille. Il faut des choses simples. Cette brosse à dents, elle doit être adaptée à l'âge des gens, à la taille de la bouche. La brosse à dents pour un adulte n'est pas la même que pour un enfant. Certaines personnes ont du mal à appréhender les manches de brosse à dents parce qu'ils ont des troubles au niveau des articulations. Il faut une brosse à dents avec un manche un peu plus gros. Et puis, il faut du dentifrice, le plus simple possible. L'Organisation mondiale de la santé préconise du fluor dans le dentifrice, là aussi avec des dosages de fluor différents en fonction de l'âge. Pour un adulte, 1500 ppm, c'est comme ça qu'on dit, la concentration de fluor, avec le fluor le plus simple possible dans cette pâte dentifrice. Alors évidemment, le dentifrice, il peut avoir un goût intéressant en fonction de l'âge aussi. Les enfants n'aiment pas trop la menthe, les adultes n'aiment pas trop les fruits rouges. Et en fonction de ça, utiliser un dentifrice qui va bien, parce que ça donne envie de se brosser les dents quand le dentifrice est agréable à utiliser.
Alors, il y a la brosse et puis il y a la régularité.
Il y a au moins deux fois par jour. Il y a la brosse, il y a le dentifrice. Il peut y avoir aussi le fil dentaire. Il peut y avoir aussi des petites brossettes. Il peut y avoir parfois besoin aussi de bain de bouche. Donc, l'hygiène bucco-dentaire qui est absolument indispensable, elle nécessite aussi un petit peu de matériel.
Beaucoup de questions sur ces dents. Il y a Ferdinand qui est au Tchad, à Moundou, qui nous demande est-ce qu'il est recommandé d'utiliser le cure-dent ? On pense à ce bon vieux cure-dent en bois qui se trouve parfois sur la table de certains restaurants ou de certains cafés.
Alors, le cure-dent, c'est bien pour piquer des aliments. Pour
les olives.
Les olives. Mais on le laisse juste comme ça pour des causes alimentaires. Et ça blesse les cure-dents, c'est pas adapté. Alors, bien sûr que c'est pratique, mais ça peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Et que s'il y a besoin de se curer les dents, le mot n'est pas très joli, il vaut mieux utiliser des brossettes interdentaires qui sont beaucoup plus adaptées à ce genre de pratique.
Alors, un brossage régulier, professeur Vianney Descroix, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on n'aura pas de caries ?
Non. Malheureusement, non. Il faut vraiment bien se brosser les dents, mais pour autant, un certain nombre de facteurs individuels, comme une sensibilité carieuse, si on boit et on mange trop de choses sucrées ou salées, on va faire des caries malgré un brossage de dents correct. Donc c'est absolument indispensable, mais ce n'est pas malheureusement un facteur de protection totale. On peut quand même avoir des caries avec un bon brossage dentaire.
Avec notamment des facteurs d'hérédité, de famille. Famille à caries, certains vont justement en avoir davantage que d'autres.
C'est ça. Certaines familles vont se transmettre les bactéries des caries, vont avoir, même d'un point de vue comportemental, une hygiène différente. Ils vont avoir une alimentation différente qui fait qu'on s'aperçoit que dans certaines familles, eh bien, elles sont plus à risque de lésions carieuses que d'autres.
On prend les auditeurs dans une seconde. Juste cette petite question avant. Si vous regardez en arrière, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, eh bien, la fréquence de ces caries a considérablement reculé dans le monde ? S'il y a eu une amélioration, c'est dû à quoi ?
Alors, malheureusement, elle n'a pas considérablement reculé dans tous les pays du monde. Il y a des injustices, il y a des pays où on a fait beaucoup plus attention à la prévention, et je pense à tous les pays du nord de l'Europe qui ont vraiment mis l'accent sur une prévention absolument drastique, avec fluorer l'eau, par exemple, mettre du fluor dans l'eau, apprendre aux enfants dès le plus jeune âge à se brosser les dents. On leur oblige à se brosser les dents à l'école, ce qui est une très très bonne façon de faire. Donc, dans ces pays-là, effectivement, on a vu reculer les caries, les maladies des gencives, les parodontites. Et puis malheureusement, dans d'autres pays où il n'y a pas assez de politiques de prévention, où les États n'ont pas mis assez l'accent sur la prévention, eh bien la carie progresse.
Alors, ces questions tout de suite avec les auditrices et les auditeurs de l'émission. Auditeur qui nous appelle de Guinée pour commencer. C'est Conakry en ligne avec Mohamed. Bonjour Mohamed.
Bonjour Carrie.
On vous écoute, le professeur Descroix est à votre écoute. Allez-y.
Bonjour Mohamed.
Bonjour professeur.
Allez-y.
En fait, moi j'ai un problème dentaire. Cela date depuis presque une année. Je suis allé voir un praticien qui m'a prescrit des médicaments. Mais vraiment, chez moi, ça ne va pas parce qu'à chaque fois que je brosse ma dent, j'ai le sang qui coule sur la brosse. À chaque fois. On m'a prescrit quelques médicaments, j'ai pris, mais jusqu'à présent.
Mohamed, excusez-moi de vous interrompre, c'est quoi ces médicaments précisément ?
C'est l'aconine, quelque chose comme ça. Là. J'ai laissé ma fiche à la maison. Mm-hmm. C'est l'aconine, quelque chose comme ça. On m'a prescrit ça, j'ai pris, mais vraiment, ça ne donne pas du tout de la bonne humeur, honnêtement.
Mais c'était quoi ? C'était un sirop ? C'était une pâte à vous mettre, une pâte gingivale ? Un cachet ? C'était quoi précisément ?
C'était un sirop que je prenais à chaque matin. Et puis, c'était accompagné aussi, C'était accompagné aussi d'une pâte dentaire. À chaque fois le matin, je me brosse. En couchant aussi, je me brosse. Mais dans ces derniers temps aussi, j'ai constaté que souvent, avec mes dents, ça commence à être jaunâtre. Je suis parti voir, on me dit, bon, il faut partir au Sénégal, il faut aller en Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Donc, j'ai des sérieux problèmes par rapport à ça. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a-t-il des méthodes, y a-t-il réellement des solutions par rapport à ça, docteur ?
Question de Mohamed, donc, qui se plaint d'avoir non seulement des saignements de gencives, mais également les dents qui jaunissent. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire ?
Alors, d'abord, il faut voir les choses de façon très, très pratique. Mohamed, les gencives peuvent saigner pour plein de raisons différentes. La raison la plus évidente, la plus simple et sans doute la plus rassurante, c'est qu'il y a du tartre sur les dents et que tant qu'il y a du tartre sur les dents, bah, la gencive se défend et elle saigne. Elle est tout le temps inflammée, en fait. Et que, en première intention, ce qu'il faudrait faire, c'est un bon détartrage, qu'on enlève bien tout le tartre sur les dents, toute la plaque sur les dents et sur les gencives pour qu'elle puisse cicatriser et qu'elle puisse arrêter de saigner. Après, il se peut aussi, parfois, que l'on observe des gencives qui saignent parce que les gens ont du mal à coaguler, ils ont du mal à cicatriser. Ils ont un trouble de la coagulation qui n'est pas forcément grave, mais ils ont un peu moins de plaquettes, ils ont un peu moins de facteurs de coagulation dans leur sang et ils se mettent à saigner assez spontanément. Donc la première chose, c'est la chose la plus évidente avoir une très bonne hygiène et que le dentiste fasse un très bon détartrage pour enlever tout ce qui pourrait faire saigner les gencives.
Est-ce que le détartrage influe aussi sur la teinte de la dent? Ça va se voir?
C'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que sans doute que si les dents sont jaunes, et ça c'est le premier facteur de risque du jaunissement des dents, c'est la présence du tartre. Le tartre est trop collé sur les dents, on n'arrive plus à l'enlever avec la brosse à dents et il jaunit de lui-même.
Donc il pourra même faire une pierre deux coups avec ce détartrage, freiner le saignement et obtenir des dents plus blanches.
C'est ça. Si on le voyait dans mon service, c'est la première chose qu'on ferait. On lui ferait un bon détartrage, on lui réapprendrait les techniques d'hygiène, on lui donnerait peut-être un antiseptique pour aider la bouche à cicatriser et puis on verrait si les gencives continuent ou pas à saigner.
Est-ce que vous avez justement envisagé un détartrage, Mohamed? En tout cas, est-ce que votre praticien, votre dentiste vous en a parlé?
Oui, il m'en a déjà parlé.
Et qu'est-ce que vous en pensez?
Je souhaite faire ça d'ici la semaine prochaine. C'est la semaine passée, j'étais là-bas.
Parce que je pense qu'avant d'envisager un voyage en Côte d'Ivoire ou dans un pays étranger qui vous coûtera une véritable fortune, vaut peut-être mieux essayer cette solution du détartrage pour commencer.
Okay.
C'est la première chose à faire.
C'est le premier conseil que vous donne le professeur Descroix. Voilà, très bonne journée à Conakry, Mohamed. On reste dans cette capitale de la Guinée avec Kadiatou en ligne avec nous. Kadiatou, bonjour.
Bonjour, Caroline.
On est à votre écoute. Le professeur Descroix vous écoute. Allez-y.
Bonjour.
Ok, bonjour, professeur. Vous allez bien?
Très bien, merci.
Ok, moi, j'ai des problèmes dentaires depuis l'enfance. J'ai des dents qui sont jaunes, mais il y a de cela deux ans, du moins, j'ai été voir un spécialiste. Il a regardé, mais il m'a dit que, mais au début, c'était deux dents qui étaient touchées. Mais maintenant, là, il y a plus de 10 dents qui sont touchées. Il a regardé, il me dit que là, ça va pas quitter. Donc, le mieux, c'est de faire le détartrage, parce que là, le truc esthétique, ça va pas quitter. Maintenant, récemment, il y a de cela, moi, je suis allée encore voir un autre. Lui, il m'a proposé deux solutions. Il m'a dit soit c'est d'arrêter la vitalité de la dent, ou faire, j'ai oublié le terme qu'il a abordé, mettre sous forme une substance blanchâtre pour masquer la dent. Mais le souci, c'est le prix qu'il m'a demandé, parce qu'il m'a dit pour chaque dent, il faut au minimum 500 000. Mmh. Et ça aussi, ça risque de revenir. Parce que ça évolue comme ça.
Est-ce que vos dents sont, on va dire, soignées? Est-ce que vous avez des caries sur ces dents?
Oui.
Et elles ont été prises en charge, ces caries? Elles ont été soignées par le dentiste?
Non.
Donc il vous a donné des conseils esthétiques, mais il n'a pas soigné les caries?
Oui, parce que lui, il m'a même dit que sûrement cette coloration-là est due soit ma maman avait pris des antibiotiques lors de la grossesse, que c'est ce qui pourrait expliquer ça.
Mais au niveau des caries, elles vous font mal, ces caries? Vous ne les avez pas faites soigner?
Je n'ai jamais eu de problème dentaire ni extraire. Je n'ai jamais eu de douleur.
Pas de douleur?
Ouais. C'est seulement le côté esthétique qui me fatigue. Je veux avoir des solutions parce que là...
C'est cette couleur qui vous embête. Et ça date depuis longtemps, justement, cette coloration de vos dents qui est allée vers le jaune, on va dire?
Oui, c'est depuis l'enfance. Mais au début, c'était deux dents. Mais maintenant, là, ça ne fait que voler. Maintenant, j'ai plus de 10 dents qui sont touchées. Mm-hmm. Et il me dit, si je ne cherche pas à arrêter, ça risque de toucher toutes les dents.
Professeur Vianney Descroix, ce que nous dit Kadiatou, donc des dents qui jaunissent, et puis ça évolue, ça s'étend, comment est-ce qu'on peut l'expliquer?
Alors c'est une très très bonne question, merci Kadiatou. Les dents peuvent se colorer pour plein de raisons différentes en fait. Elles peuvent se colorer pour des raisons qu'on appelle nous extrinsèques, c'est-à-dire que les aliments, le tabac, l'alcool peuvent colorer les dents, le tartre peut colorer les dents. Et là, finalement, la solution, elle est généralement très simple, c'est de faire un détartrage, c'est d'arrêter le tabac, c'est toujours bien, d'arrêter l'alcool, de faire un bon détartrage, et parfois, on peut faire un blanchiment très superficiel. Et puis, il y a les colorations des dents que nous, on appelle intrinsèques, c'est-à-dire que les colorations ne sont pas à l'extérieur de la dent, mais elles sont à l'intérieur de la dent. Et là, comme le dit très bien Kadiatou, ça peut être dû au fait que la maman ait pris des antibiotiques.
Mais et ça va quand même apparaître assez tard dans la vie, après la vingtaine?
C'était justement ça qui me posait question, c'est-à-dire que si les dents sont une coloration due à des antibiotiques pendant la grossesse, elles sont tout de suite jaunes ou vertes ou marron. Trop de fluor, par exemple, peut donner aussi ces, ces colorations-là, ces taches sur les dents, mais elles se voient dès que les dents arrivent dans la bouche. Et donc, si les colorations là progressent aujourd'hui, c'est sans doute dû à d'autres choses que les antibiotiques pendant la grossesse. Et ce qui est très important de dire de toutes les façons, c'est que d'abord, avant de penser à l'esthétique, il faut soigner les dents. Mmh. Il faut que les dents n'aient plus de caries, il ne faut plus qu'il y ait de gingivite. Et il faut bien que les auditeurs comprennent ça, c'est qu'un blanchiment fait sur des dents qui sont malades ou sur des gencives qui sont malades, ça aggrave le problème.
Et c'est vraiment une préoccupation commune, hein, parce qu'on a aussi Élie de Goma qui nous dit « Quel produit dois-je utiliser pour blanchir mes dents ?» Vous le soulignez bien, on en a parlé même au début de l'émission, la séduction, ça compte. Avoir une jolie bouche, c'est important. Mais d'abord, une bouche en bonne santé.
C'est ça. Avant l'esthétique, il faut penser à la santé. L'esthétique, ça sera toujours en deuxième temps, quand la bouche va bien. En France, on ne blanchit jamais les dents de quelqu'un qui a des caries, qui a des gingivites, avec les dents qui saignent, avec des douleurs dans la bouche, parce que les produits qu'on va utiliser sont très agressifs et il faut les utiliser sur une bouche saine.
Mais quand même, ce changement de couleur des dents de Kadiatou, ça veut dire quelque chose. C'est un symptôme.
C'est un symptôme qui peut être très simple d'une alimentation, qui peut être des caries, qui peut être du tartre. Il faut penser aux choses les plus évidentes d'abord. Et vraiment, il faut faire très attention lorsque l'on fait des blanchiments à ce que le dentiste ait d'abord bien soigné la bouche.
Et quand un spécialiste a dit à Kadiatou dévitaliser, donc arrêter la vitalité de la dent, peut-être y réfléchir à deux fois. Alors, ça dépend de la situation.
Exactement, parce que des fois les dents se teintent aussi ou changent de couleur parce que on dit qu'elles se nécrosent, c'est-à-dire que le nerf qui est à l'intérieur de la dent va mourir et la dent va se nécroser et elle devient un peu grise. Mais ça, il faut faire des tests avant et la dévitalisation, elle n'est pas systématique.
Voilà, Kadiatou pour ses conseils. Donc, retourner voir un dentiste et première chose, voir s'il n'y a pas des caries avant donc de penser à la teinte de ses dents. Très bonne journée à Conakry. On part pour la Mauritanie. Ouadibou, avec El Hadj, en ligne avec nous. Bonjour El Hadj.
Bonjour Caroline, bonjour docteur, professeur.
Bonjour monsieur.
On est à votre écoute, allez-y.
Il se trouve que depuis quelque temps, je suis confronté à des contractions et des dents et des mâchoires. Et ce, durant mon réveil et surtout dans mon sommeil. En découle des douleurs aux mâchoires, après des recherches, il me semble que ceci est surnommé le bruxisme. Mm-hmm. J'aimerais savoir, ce bruxisme-là, est-ce une maladie? Quelles sont ses causes et quels conseils me donnez-vous pour avoir des soins?
Alors, ce dont se plaint El Hadj, hein, c'est ce qui arrive à pas mal de gens. Ils se réveillent, ils ont l'impression d'être tout tendus, la mâchoire en béton, c'est insupportable. Et puis même, ça peut avoir aussi une incidence sur la qualité des dents, ça peut les abîmer, non?
Alors, bien sûr que ça peut abîmer la qualité des dents, mais ça abîme surtout la qualité de vie des gens qui en souffrent parce que ce sont des affections extrêmement douloureuses. Alors oui, je pense que c'est une maladie parce que ça a des symptômes douloureux, ça entrave les activités quotidiennes, on dort moins bien, on se réveille douloureux le matin, on mange moins bien parce que manger peut faire très mal. On ne sait pas encore très très bien les vraies causes de cette maladie qui sont associées à ce qu'on appelle le bruxisme, c'est-à-dire les gens grincent des dents. On peut grincer des dents toute la nuit, on peut grincer des dents dans la journée, on peut grincer des dents tout le temps. Ce grincement de dents, il est très souvent dû à du stress. Ça, c'est ce qu'on pense au départ, c'est que le point commun de tous les gens qui bruxent, c'est qu'ils sont face à une situation un peu stressante. Et on pourrait demander à notre auditeur si en ce moment il vit une période un petit peu difficile, avec des soucis, avec des ennuis, qui expliquerait que tout d'un coup, il se mette à grincer des dents. On ne sait pas très bien comment apparaît cette maladie, à part cette notion-là d'anxiété.
Ça veut dire que ce n'est pas au niveau de la mâchoire qu'il y a un problème, on va dire, physique, c'est davantage un retentissement physique d'autres choses qui pourraient s'être passées.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, les gens vont décompresser ou décompenser leur anxiété en serrant fort les dents et en grinçant des dents. Et nous, on voit, moi c'est ma spécialité dans ma consultation, qu'en accompagnant ces gens pour essayer de comprendre, en faisant parfois de la méditation, en les aidant à gérer leur stress, ils réduisent beaucoup leur grincement de dents. Et moins ils grincent des dents, moins ils ont mal aux muscles, moins c'est douloureux le matin.
El Hadj, est-ce que vous avez l'impression, si vous regardez, si vous arrêtez, d'avoir des tensions particulières au moment du coucher, par exemple, l'impression de ne pas avoir tout fini ce que vous deviez faire, avoir des conflits dans la famille, avoir des choses en fait qui, la nuit, vous ne reposez pas, mais vous ruminez, et puis quand on rumine, on serre les dents.
Ça peut être ça, parfois, je crois que c'est la fatigue, souvent, mm-hmm. c'est
Le trop-plein.
C'est exactement le trop-plein. Alors, les solutions, elles peuvent être symptomatiques, c'est-à-dire utiliser, par exemple, du paracétamol quand on a trop mal aux mâchoires, sauf qu'on ne résout pas la question, on ne résout pas le problème.
Et puis, il faut respecter bien les doses et pas en prendre trop longtemps.
Un gramme toutes les 6 heures est le moins possible. On peut mettre une gouttière sur les dents pour éviter que les dents se serrent trop la nuit et pour reposer les dents, parce que comme vous le disiez, Caroline, ça peut abîmer les dents. Donc on met une gouttière comme ça, quand les gens serrent trop fort, ils serrent sur la gouttière et pas sur leurs dents. Et puis ce qu'il faut surtout, c'est arriver à gérer un peu plus son stress. Là encore, en plein de techniques de relaxation, et puis surtout d'arriver à trouver la source de ce stress
pour s'en débarrasser, bien respirer, prendre son temps. El Hadj, bon courage et bonne journée en Mauritanie. Un auditeur qui nous appelle du Congo Brazza, de Brazzaville, c'est Giraud. Bonjour Giraud.
Bonjour Caroline.
Le professeur Vianney Descroix est à votre écoute, allez-y.
Bonsoir, bonjour Giraud.
Bonjour professeur, j'ai trois questions pour vous.
Allez-y.
La première, j'aimerais savoir où peut-on acheter le dentifrice, à la pharmacie ou dans un supermarché?
Alors,
et la deuxième question, professeur, c'est en termes de qualité. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour reconnaître un bon dentifrice sur le marché.
Alors, c'est une question simple, enfin, mais importante. Oui.
C'est une question très importante.
Et la dernière question, un dentifrice qui ne contient pas du fluor, est-ce un bon ou un mauvais dentifrice?
Donc, vous saurez tout sur le dentifrice après ces réponses. Où l'acheter? Comment reconnaître le bon produit? Et faut-il obligatoirement du fluor? Allons-y.
Alors, où l'acheter? Ça dépend aussi un petit peu de ses moyens financiers. C'est sûr que, en tout cas en France, quand on achète un dentifrice en pharmacie, il vaut beaucoup plus cher que dans une grande surface. Pour autant, je suis pas certain que sa qualité soit trois fois meilleure à celle qu'on peut trouver dans une grande surface. Ce qui est sûr, c'est que plus le dentifrice est simple, plus on est sûr de sa qualité. C'est-à-dire qu'un dentifrice qui va avoir trop d'allégations, comme on dit, hein, qui va revendiquer trop de choses, à la fois contre les caries, contre les gingivites, contre tout, il faut s'en méfier un petit peu.
Aller vers la simplicité.
Et un dentifrice dont on aime bien le goût, qui contient du fluor, c'est super, c'est ce qui va nous aider le mieux. Donc ça, c'est pour répondre aussi à la deuxième question, c'est-à-dire que la qualité d'un dentifrice. Alors en France, on est habitué à certaines marques dont on connaît qu'elles sont sûres, de bonne qualité. Je ne sais pas le type de marque que l'on peut trouver à Brazzaville, mais parfois un dentifrice qui existe depuis très longtemps est peut-être plus rassurant qu'un dentifrice qui vient juste d'être inventé.
Giraud, vous avez entendu parler, même si ici c'est pas l'émission des rumeurs, mais je vous pose quand même la question, de produits plus ou moins de bonne qualité, avec peut-être des gens qui trafiquent un petit peu du côté aussi de la pâte dentifrice?
Oui. Vraiment, chez nous, ici, nous avons une panoplie de marques, surtout les dentifrices naturels. Il y en a assez à des prix très abordables.
Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de garantie sur la composition de ces produits?
Non. Quand tu essaies de voir, il n'y a pas de notice, il n'y a pas des indications, il n'y a pas des composants. Bon, on se demande, non, c'est naturel, ça soigne beaucoup de maladies, la carie, la mauvaise haleine, les hémorroïdes, on dit, c'est un émail miracle ou comment?
Non, mais alors là, soigner, excusez-moi, je suis pas médecin, mais de la carie aux hémorroïdes, là, ce serait absolument un produit incroyable. Hein. Là, c'est même pas ça.
On nous demande même d'avaler la mousse après, il faut pas jeter quand tu brosses, quoi. Après avoir brossé, il faut avaler, il faut pas. J'étais après.
Je pense qu'il vaut mieux s'en tenir au conseil du professeur Descroix, hein, essayer de trouver une marque assez connue, pas trop chère parce qu'on n'est pas là non plus pour dépenser son argent, mais prendre un produit le plus simple possible et puis qui a fait ses preuves.
Les fabricants de dentifrice vont pas aimer ce que je vais dire, mais brosser les dents, c'est déjà 90% du traitement. C'est-à-dire que le dentifrice, il est là, certes, pour apporter un peu de fluor, mais il est surtout là pour que le brossage soit agréable. Mais si on se brosse avec une brosse à dents souple, les dents 2 à 3 fois par jour, même avec de l'eau, on a une grande efficacité pour nettoyer les dents. L'important, c'est de nettoyer les dents. Donc, le dentifrice, il faut vraiment le choisir le plus simple possible, avec le moins de revendications possibles, du fluor et un goût qui nous plaît, et ça suffit largement.
Voilà, Giraud, pour cette question très pratique, oui, je vais y arriver, mais aussi très intéressante. On continue avec Aouka, qui est au Sénégal, qui est à Dakar, toujours la santé bucco-dentaire dans Priorité Santé. Bonjour, Aouka.
Bonjour, madame Karine. Bonjour, professeur.
Bonjour, Aouka.
Allez-y, on vous écoute.
En fait, moi, j'ai deux questions à poser. Mm-hmm. La première est que moi, j'ai deux mollets qui me font mal depuis 3 mois. J'aimerais savoir si je les arrachais, s'il y aurait des effets secondaires.
Si vous les arrachez, mais qui vous a conseillé de les arracher, ces dents?
En tout cas, c'est moi qui ai décidé cette décision. Parce que ça m'a fait mal et j'ai voulu les enlever.
Mais vous connaissez la cause de la douleur? Vous êtes allé voir un dentiste ou c'est vous-même qui dites ben, « j'ai mal, je vais arracher mes dents »
Oui, c'est moi qui ai...
Ah bah plus, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. On fait tout pour ne pas se faire arracher les dents. En même temps, que c'est vrai que quand on a une douleur persistante, j'ai une question très concrète, Aouka. Est-ce que vous avez les moyens d'aller voir un dentiste, consulter un dentiste pour qu'il dise précisément qu'il trouve la cause de ces douleurs sur vos dents? Est-ce que vous en avez les moyens?
Non, pas du tout, pas du tout.
C'est pour ça que vous avez pensé à ce recours extrême de l'arrachage de dents. Et si vous vous faisiez arracher les dents, vous iriez voir qui, Aouka? Qui va vous les arracher?
Un dentiste.
Un dentiste. Donc peut-être que si vous allez payer pour vous faire arracher les dents, peut-être que vous pouvez aller voir ce dentiste pour vous faire peut-être soigner les dents.
Oui, d'accord, oui.
Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Vianney-Descroix? Ça nous pose une question très simple. C'est quoi les recommandations pour, on va dire, arracher? Je sais que vous n'aimez pas le mot. Vous dites, vous n'êtes pas des arracheurs de dents, vous dites extraire.
On extrait
alors,
les dents.
Vous extrayez les dents, c'est pas facile à dire. Quelles sont les indications pour extraire une dent? On imagine que c'est le cas extrême.
Alors, c'est... Bien évidemment, soit le cas extrême parce que la carie est tellement importante qu'on ne peut plus sauver la dent avec les moyens que l'on a pour la sauver. Ça peut être aussi, c'est le cas pour les dents de sagesse, des dents dont on voit déjà sur la radio qu'elles ne pourront pas pousser correctement parce qu'elles sont de travers. Les dents de sagesse, elles ont pris ces habitudes de pousser de travers. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Aouka?
Oui.
Vous avez quel âge?
J'ai 24 ans.
Vous êtes jeune, oui.
Alors, vous avez 24 ans et les molaires qui vous font mal, elles sont plutôt tout au fond de la bouche, c'est ça?
Oui, oui. Ouais.
Bah, vous voyez peut-être que c'est des dents qui sont en train de pousser, en fait, parce que à 24 ans, on peut encore avoir ce qu'on appelle, nous, les dents de sagesse qui sont en train de pousser. Et peut-être qu'une simplement une radio nous permettrait de voir qu'elles sont en train de pousser, qu'elles vont bien pousser, qu'elles vont prendre toute leur place dans la bouche et qu'il faut surtout pas les toucher. Ou peut-être qu'elles sont en train de pousser et elles sont en train de pousser de façon un petit peu anormal, et là, il faudra effectivement, on n'aura que cette solution de les extraire. Et il faudra trouver un bon chirurgien dentiste qui sait bien extraire les dents de sagesse parce que ce n'est pas des interventions anodines.
Donc, ça veut dire au moins...
Il faut un diagnostic.
Il faut un diagnostic, Aouka. En tout cas, pas de décision. Ne vous faites pas arracher ou extraire les dents comme ça sur votre propre décision. En tout cas, allez voir un spécialiste. Je sais que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde et c'est parfois compliqué, mais là, ça semble très, très important. Très bonne journée au Sénégal. Il y a Rachid qui est au Bénin, à Cotonou. Justement, ça rejoint un petit peu ce que vous abordiez tout à l'heure, qui demande combien de temps, c'est une question Facebook, combien de temps dure la poussée des dents de sagesse?
Alors, ça dépend beaucoup des gens, mais en moyenne, les dents de sagesse, elles vont arriver dans la bouche vers 20 ans, 21 ans. Donc, certaines personnes font ce qu'on appelle l'évolution de la dent vers 18, 19 ans, et ça peut aller jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, c'est beaucoup plus rare. Donc, on peut estimer qu'à partir de 17, 18 ans, les dents commencent à sortir de la mâchoire et elles vont arriver dans la bouche, et puis jusqu'à 21, 20, 22 ans en moyenne.
Alors, quand on parle des dents, c'est également une question de vocabulaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec Boris, qui est au Cameroun, à Maroua. Bonjour, Boris.
Bonjour.
On vous écoute, Boris. Allez-y.
Moi, j'ai 27 ans. Mm-hmm. Et la carie dentaire a commencé à me déranger à l'âge de 14 ans. Mm-hmm. Et tous mes dents étaient plombées. Donc, j'ai 3 questions pour comprendre le mal des dents. Mm-hmm. La première est que les dents caries, elles peuvent avoir des conséquences au futur. La seconde est que ma maman m'a dit que c'est une maladie héréditaire. Donc, je veux vérifier avec le professeur si c'est une maladie héréditaire. Mm-hmm. Et la troisième est que est-ce qu'il y a une possibilité d'enlever ces dents plombées et les échanger?
Contre des prothèses dentaires, c'est ça?
Oui.
Question, Boris, vous lavez les dents régulièrement? Comment allez votre hygiène dentaire?
Bon, je brosse quand même, mais apparemment, pour le moment, toutes les dents sont caries.
Oui, mais je vous pose quand même la question, est-ce que vous brossez les dents matin et soir?
Oui, je brosse.
Et vous, votre question, c'est de savoir, en fait, vous pensez que vous avez une hygiène dentaire qui est plutôt bonne, et vous trouvez qu'à côté des efforts que vous faites pour garder ces bonnes dents, eh bien, vos dents sont dans un très mauvais état, c'est ça ?
C'est bien cela.
C'est bien cela. Alors, professeur Vianney-Descroix, première question sur le vocabulaire. C'est ce que je disais avec le sourire, même s'il n'y a pas forcément de quoi en rire quand on a 8 ou 10 caries dans la bouche, parce que c'est très pénible. Quand on dit dents plombées, on dit quoi au juste ?
Alors, on dit, effectivement, vous avez raison de revenir dessus, parce qu'il n'y a pas de plomb dans ces matériaux qu'on utilise.
C'est une vieille expression.
C'est une vieille expression, et le terme, le vrai terme, c'est amalgame. C'est un produit qui est effectivement gris, donc qui ressemble à du plomb, et donc les gens peuvent confondre. Mais dans cet amalgame, il y a surtout de l'argent et un petit peu de mercure. Alors, la question est vraiment très pertinente de Boris. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences quand on en a trop ? Il en faut vraiment beaucoup, en fait, pour avoir des conséquences. Et je crois qu'il faut être très prudent parce que ces fameux amalgames, qui sont les produits qu'on utilise pour grossièrement boucher la dent une fois que la carie est soignée, c'est sans doute les produits les plus inertes. C'est ceux qui ont le moins de conséquences pour la santé. Donc, avant d'y toucher, même en France, hein, on fait vraiment une évaluation de savoir si on peut trouver quelque chose de mieux. Est-ce qu'il faut les enlever ? Parfois, c'est pire que ce qu'on avait. En tout cas, on ne les enlève pas en se disant c'est mauvais pour la santé. On les enlève parce qu'effectivement, sur certaines dents, les prémolaires qui sont un petit peu visibles, ça peut gêner d'un point de vue esthétique, mais il faut vraiment savoir que ces produits, ces amalgames sont les meilleurs que l'on ait aujourd'hui pour reconstituer les dents, notamment les dents du fond, les molaires. Et puis la troisième question, la carie est en partie héréditaire. Encore une fois, il y a des familles qui font plus de caries que d'autres, mais ce n'est pas que héréditaire, ça tient compte aussi de l'alimentation, de l'hygiène de vie, de l'hygiène bucco-dentaire. Donc, mon conseil, ça serait de ne surtout pas enlever ces amalgames qui ne sont pas des plombages pour de simples raisons esthétiques. C'est dommage.
Voilà pour cette réponse. Boris, on vous souhaite une très très bonne journée au Cameroun et on va tout de suite donner la parole à un autre spécialiste de la santé bucco-dentaire. On rejoint tout de suite le Bénin.
Priorité santé sur RFI.
Pour vous retrouver, docteur Émile China, bonjour.
Bonjour Caroline.
Eh bien, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, docteur. Quels sont les principaux motifs de consultation à votre cabinet ?
Oui, mais avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer et le professeur Descroix.
Bonjour.
Et de présenter mes voeux à tout le personnel de la RFI.
C'est très gentil.
Et aux auditeurs.
Alors, bon. on va revenir à nos questions dentaires. Quand oui. on vient vous voir à votre cabinet, docteur, cabinet, alors que vous êtes également président d'honneur de l'Association des chirurgiens dentistes, qu'est-ce qu'on vous demande ? Le principal motif, c'est quoi ?
Ce qui prédomine dans nos cabinets, c'est surtout les douleurs dentaires. Quand les gens n'arrivent pas à dormir la nuit, quand ils se réveillent, directement, ils vont chez le dentiste. Donc, il y a surtout les douleurs. Quand vous faites une rage de dents, la première personne à chercher, c'est le dentiste. Donc, malheureusement, les gens continuent d'attendre d'avoir mal avant d'aller chez le dentiste. Ensuite, quand les gens n'arrivent plus à manger, ils ont des difficultés pour manger, ils viennent nous voir. Et j'ai fait le constat récemment qu'il y a de plus en plus de persistance de dents de lait. Et quand les patients voient quand il y a des dents qui sont en mauvaise position, des malpositions dentaires, des persistants de dents de lait, ils s'inquiètent et ils viennent nous montrer pour dire ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et on leur explique. Voilà ce qui prédomine, c'est surtout la douleur.
La douleur avec cette question justement des douleurs dentaires qui entravent l'alimentation. Il y a Nivana qui est en République dominicaine qui dit « Mes dents sont sensibles, je n'arrive pas à écraser les aliments durs et parfois mes gencives saignent. » C'est ce genre de problème que vous exposent vos patients ?
Oui, il y a plusieurs causes à cela. Il y a d'abord les caries. Les caries et les maladies du tissu de soutien de la dent, les parodontopathies. Et il y a aussi les complications de ces maladies-là. Et en plus, il y a les hyperesthésies dentinaires. il y a les dents qui sont bien usées. Hein, les gens ils font pas de contrôle. Et donc, vous voyez, c'est surtout chez les personnes d'un certain âge, et les dents sont complètement usées et les dents deviennent sensibles. Et elles n'arrivent pas à manger, même boire de l'eau, même quand l'eau n'est pas glacée, les dents ne supportent plus. Donc, il y a surtout ça qu'on retrouve dans la cible des personnes âgées.
Docteur Émile China, est-ce que certains de vos patients sont passés entre les mains ou les pinces de certains praticiens avant d'arriver chez vous? On parlait tout à l'heure de l'hygiène dentaire, on parlait des caries, mais est-ce que parfois vous constatez qu'il y a eu d'autres intervenants qui ne sont pas forcément spécialisés et de ce fait, eh bien, les patients viennent consulter, vous diriez, un peu tard?
Oui. Malheureusement, il y a des malades qui passent d'abord dans les mains des, chez nous, on les appelle des tradis praticiens. En dehors de ça, il y a des personnes qui ne sont pas formées pour faire la chose. Il y a des gens qui ont séjourné dans les services dentaires qui croient que la pratique dentaire, c'est comme apprendre la mécanique, apprendre les trucs comme ça. C'est un petit apprentissage et quand il voit le chirurgien dentiste faire un certain nombre de choses, il
répète les gestes sans avoir la formation.
Les gestes seulement, hein, ils font de la routine. Et puis, ils cassent les dents, ils font de n'importe quoi dans les bouches. C'est dramatique. Et c'est pour cela qu'il faut continuer la sensibilisation pour dire que qui doit s'occuper des dents. En dehors des chirurgiens dentistes, il y a sous nos tropiques des techniciens spécialisés en odontologie. Mm-hmm. Donc en dehors de ce personnel-là, il ne faut pas présenter sa bouche à n'importe qui.
Est-ce que vous diriez que la peur du dentiste, docteur China, elle est toujours bien présente dans votre pays, le Bénin?
Bon, la peur du dentiste, elle est présente. Mm-hmm. Ça diminue, mais elle est toujours présente. Bah, les gens ont toujours peur. Mm-hmm. Mais c'est quand ils viennent voir le dentiste maintenant qu'ils comprennent qu'en réalité, il y a plus de peur que de mal.
Absolument.
Oui, mais il faut qu'ils essaient d'abord. Mm-hmm. Et c'est pour cela qu'on demande aux gens d'aller voir le dentiste d'abord, en première intention. Parce que là, on ne fait plus mal. Les dentistes sont devenus sympas, hein. C'est dans le passé.
On l'entend bien depuis le début de cette émission, hein. Les arracheurs de dents, ils sont morts et enterrés.
Les arracheurs de dents.
Exactement.
Les arracheurs de dents.
Vous avez des bonnes techniques, des bons outils, des bons produits, justement, pour faire passer un message.
On a les moyens de soigner les dents des personnes sans douleur.
Et de soulager, c'est important.
Oui, on a les moyens de le faire.
Alors, un message pour le plus grand nombre, pour justement éviter certaines mauvaises habitudes et apprendre des bons gestes, docteur Émile China, pour terminer.
Oui, moi, ce que je tenais à dire aux gens, il faut qu'on change les choses dans les têtes de nos populations. Parce que la dent est aussi un organe vivant. La dent est un organe vivant. Il ne faut pas chercher à l'enlever. Les dents ne sont pas faites pour être arrachées. Il faut conserver les dents. Donc, la dent vit. La dent vit. Donc, il faut les préserver, hein, les soigner et les conserver. Ce n'est pas parce qu'on a 32 dents qu'il faut les arracher, qu'il faut les envoyer à la poubelle. Quand vous perdez une dent, hein, ça vous crée un problème. Vous avez aussi un handicap. Il y a plus de handicapés dans le monde qu'on ne le croit. Parce que quand vous perdez une dent, vous savez, la nature a horreur du vide. Quand vous perdez une dent, les autres dents cherchent à combler ce vide-là et les dents se déplacent et vous avez une mauvaise articulation au niveau de l'articulation temporomandibulaire et ça vous crée des problèmes à vie. Donc, évitez d'enlever les dents. Bon, maintenant, pour avoir le meilleur soin, il faut que les gens fassent la prévention. La prévention d'abord, c'est au niveau individuel.
Avec tous les conseils de brossage hein, qu'on a bien rappelé tout à l'heure en début d'émission. Vous remercie infiniment. Merci pour toutes ces explications et votre éclairage, docteur Émile Chinard.
RFI à Cotonou, 90 FM.
On se retrouve pour la dernière partie de notre échange Priorité Santé. Tout sur les dents aujourd'hui en votre compagnie, professeur Vianney Descroix, avec une très large part sur ces questions passionnantes, il faut le dire aujourd'hui, des auditeurs. Questions simples, questions évidentes et questions importantes. Par exemple, du Togo, Lomé, question Facebook de Silver. Quelle hygiène adopter quand on porte des prothèses dentaires ? À quel rythme doit-on les nettoyer, par exemple ?
C'est une très très bonne question. Alors là, on parle de ces prothèses qu'on appelle, nous, amovibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent se retirer de la bouche. De la même façon qu'on ne dit plus arracheur de dents, on ne parle plus de dentier, mais c'est en gros de cela dont il s'agit. Ces prothèses doivent être très régulièrement nettoyées. Alors, si on peut, avec une brosse qui est spécifique pour les prothèses dentaires, et on les nettoie le matin et le soir, on peut dormir avec. Mais il faut faire très attention à ce qu'elle soit bien propre pour pas qu'elle ne véhicule de microbes, de champignons. Il n'y a rien de pire que ces prothèses qui sont recouvertes d'une pellicule de champignons.
Non, alors là, c'est ragoûtant. Ça,
c'est ragoûtant. Donc il faut les nettoyer. C'est un nettoyage simple. De la même façon que les dentifrices, plus on fait simple, mieux c'est. Bah, pour nettoyer une prothèse, il faut de l'eau, il faut une brosse. On la brosse bien et on fait ça très régulièrement.
Et je dis bien ça parce qu'il y avait des images quand j'étais jeune d'une publicité où on mettait ni plus ni moins le dentier dans un verre d'eau avec un cachet et c'est fini. C'est pas comme ça que ça se passe.
Alors, il faut quand même faire quelque chose.
Non,
il faut faire quelque chose, il faut les brosser. Alors après, si on veut effectivement utiliser ces petites pastilles, là, il faut en choisir pareil, qui sont d'abord faites pour les prothèses dentaires et pas pour un lave-vaisselle ou pour autre chose. Mmh. Et puis, le simple fait de faire baigner des prothèses dans l'eau toute une nuit ne suffit pas et ça dégrade les produits qui constituent les prothèses. Donc, le plus simple étant la brosse, de l'eau et le faire régulièrement.
Et si justement on les retire pour la nuit, la conservation, il ne va pas y avoir des bactéries qui vont proliférer, il n'y a pas de risque à ce niveau-là, non ?
C'est-à-dire que si on est obligé de les enlever pour la nuit, c'est peut-être qu'elles ne sont pas si bien adaptées que ça, à la limite. Hein. Si elles gênent pour dormir, c'est que peut-être elles ne sont pas exactement faites comme il faudrait, et il faut plus se poser la question de savoir pourquoi on a besoin de les enlever la nuit.
Alors une dernière question, un petit peu dans l'air du temps, on va dire. En matière d'hygiène et de cosmétique, aujourd'hui, la mode est au fait maison, au naturel. Et sur Internet, on parlait tout à l'heure avec un auditeur, justement, toutes ces questions sur le dentifrice, on parlait de ces recettes à base, par exemple, alors j'ai trouvé, hein, argile, bicarbonate de soude, huile essentielle de menthe douce. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais j'en pense que non seulement c'est peut-être pas efficace, mais ça peut être dangereux.
Ah.
Alors, le bicarbonate de soude est bien connu pour être un antiseptique, pour être un produit qu'on utilise, mais il faut bien l'utiliser.
Et le doser.
Tout ce qui est huile essentielle, il faut vraiment faire très attention. Elles peuvent être particulièrement dangereuses. Et encore une fois, tout ça, ce sont des produits très marketing et commerciaux. Et encore une fois, il faut être simple avec son hygiène. Il y a des choses qui marchent très très bien sans qu'on ait besoin de tous ces produits-là.
Avec cette fameuse question en ce moment, il y a des choses étonnantes qui fleurissent sur les étals. Le dentifrice noir, pas de dentifrice au charbon végétal. Alors, bénéfique, inutile ou méfiance ?
Oh, il faut être très méfiant avec ce genre de produit. Faisons
dentifrice
simple.
Dentifrice noir, dents blanches, oui, c'est ça. Une méthode.
Ça fait du contraste quand on a les gencives toutes noires, effectivement.
Voilà, bah merci beaucoup pour ces conseils concrets, pratiques, professeur Vianney Descroix, professeur des universités en sciences biologiques à la faculté de chirurgie dentaire de Paris et chef du service d'odontologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et on parle de l'activité physique tout de suite dans Priorité Santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen. Docteur Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Alors, débuter la course à pied, hein, c'est une grande aventure pour beaucoup de celles et de ceux qui nous écoutent. Certains d'entre nous abandonnent, par contre, peut-être un petit peu trop vite. Alors, docteur Sen, vous allez nous donner des conseils. Comment se lancer, comment débuter cette activité? D'abord, pourquoi se mettre à la course à pied?
Eh bien Caroline, d'abord, on peut dire que c'est pratique de faire de la course à pied, parce qu'on peut en faire à peu près partout. Hein. On peut en faire en ville, dans la nature, en salle, on peut le faire quand on veut, le matin, le soir, tout ça en fonction de son emploi du temps. Donc ça, c'est ce côté praticité dans le temps qui est très intéressant. Puis ça coûte pas cher, hein. Même si on pratique en club, voilà, ça n'a rien à voir avec les prix des salles de gym qui sont beaucoup plus élevées. Il suffit juste d'une bonne paire de baskets, de chaussures, et hop, hein, on y va, et tout ça, ça se passe très bien. Et puis, il faut bien sûr rappeler aussi tous les bienfaits pour la santé qu'entraîne la course à pied. Ça stimule la formation des os, et donc là, on sait que ça va lutter contre l'ostéoporose, ça renforce les muscles du cœur, ça améliore la circulation sanguine, on évite comme ça d'avoir d'hypertension artérielle, ça augmente les dépenses énergétiques, donc on brûle plus les graisses, adieu le mauvais cholestérol, on améliore le taux de sucre, et puis ça aide aussi à lutter contre le stress et la dépression. Donc tout ça, parce qu'on sécrète plein d'endorphines pendant l'effort, donc tout ça, c'est formidable. Finalement, il n'y a presque que des bienfaits à l'activité de la course à pied.
Alors, plein de raisons de s'y mettre, mais est-ce qu'il faut passer en consultation? Est-ce qu'il faut consulter un médecin avant de se lancer?
Bon, globalement, on peut dire que ça va dépendre de son âge, de ses antécédents médicaux, de ses traitements médicamenteux et de son état de santé en général. Mais schématiquement, on peut essayer de simplifier en disant, ou bien on a moins de 40 ans et que on n'a pas d'antécédent médical personnel ni familial, notamment par exemple un décès jeune en faisant de l'activité sportive, qu'on se sent parfaitement en forme, qu'on n'a pas de troubles bien sûr ressentis lorsqu'on est à l'effort, c'est-à-dire des palpitations, des douleurs, des malaises, des choses de ce genre, qu'on a une hygiène de vie correcte, hein, on fait pas d'excès, de tabac ou autre, eh bien à ce moment-là, on peut dire que on peut se lancer dans la course à pied sans consulter systématiquement un médecin. Par contre, si on a plus de 40 ans, dans tous les cas, c'est quand même mieux de faire un point d'un point de vue médical, parce que le médecin essaiera d'étudier surtout les articulations, voir s'il n'y a pas de risque, notamment pour les genoux, les hanches, c'est vraiment des articulations qui sont exposées lors de la course à pied, et puis pas de risque cardiovasculaire, hein. Vérifier bon les antécédents familiaux, comme on a dit, qu'on n'ait pas de surcharge en poids, de tabac, de cholestérol, d'hypertension artérielle, qui sont quand même où il faut faire attention dès qu'on veut se lancer dans la course à pied.
Alors, docteur Sen, une fois que la décision est prise, on passe à la pratique. Comment on commence?
Il faut commencer par des courts intervalles. Des courts intervalles, c'est-à-dire au lieu de commencer par courir des longues distances en une seule fois, le mieux c'est diviser finalement la course en plusieurs intervalles. Par exemple, on peut alterner 2 minutes en courant et puis 2 minutes de marche, et ça permet de prolonger la durée d'activité physique. Et puis petit à petit, à chaque fois qu'on va faire un entraînement ou semaine après semaine, on va augmenter justement la durée de course et on va diminuer le temps de marche. Et comme ça, au bout d'un certain temps, eh bien on va pouvoir courir totalement une séance sans avoir à marcher. Il faut aussi pas démarrer trop rapidement, hein. Vous savez, c'est cette fameuse activité physique modérée qu'on dit habituellement, parce que c'est un vrai stress, hein, le fait de faire des efforts et de courir. Et il faut pouvoir faire cet effort tout en étant capable de tenir une conversation sans être trop essoufflé. Hein, ça, c'est vraiment un critère qui peut être intéressant. Il faut garder.
C'est bien pour les bavards. Hein.
Voilà.
Je ne parle de personne en particulier, mais on s'y retrouve finalement.
Voilà, c'est agréable en même temps. Et là, l'idée, c'est de garder ce rythme pendant toute la durée de l'entraînement. Même si justement, on dit, tiens, c'est léger, j'ai envie d'aller un peu plus vite. Non, il vaut mieux garder ce rythme parce que comme ça, ça permet de tenir tout du long. Et puis, il faut pas oublier la récupération. Hein. Le corps a besoin de se régénérer, a besoin de récupérer. Et si, par exemple, la première séance se passe bien, on peut avoir tendance à dire, dès demain, je vais recommencer une nouvelle séance. C'est peut-être pas ce qu'il y a à faire. Il vaut mieux, par exemple, 1 jour sur 2 à ce moment-là, le lendemain ou 1 jour sur 3 au départ, laisser le corps vraiment récupérer des micro-traumatismes pour pouvoir justement accepter encore une nouvelle séance ensuite. Donc voilà, j'ai envie de dire vraiment qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs peuvent vraiment pratiquer la course à pied en toute sécurité et vraiment qu'à leur ligne, on peut leur dire 3, 2, 1... à vos marques.
Partez, merci, partez, mais sans vous, sans être désagréable quand même, Jean-Marc Sen, parce qu'on va vous retrouver très prochainement dans Priorité Santé. Hein. Je rappelle que vous êtes médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. C'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène, Victor Hull et avec nous aujourd'hui Laurent Hérault. Demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de la fatigue. Conséquence du surmenage ou signe d'une maladie, on attend vos questions, vos témoignages. Notre numéro, le 33 84 22 75 75. À demain et d'ici là, portez-vous bien.
Vous avez suivi Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner où que vous soyez pendant ces 366 jours. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.